Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel avec Thio qui arrête pas de le faire chier pour son intro.
T'as de la chance, j'aurais pu parler à Caro en même temps.
Oui, c'est vrai. Bonjour à tous. Une petite émission un peu particulière parce que, en gros, on a eu du mal à se remettre de nos congés de Noël et du jour de l'an. Et donc, bah, comme on ne voulait pas vous laisser trop longtemps sans rien, on a essayé de faire une petite émission spéciale. Alors, qualitativement, ce ne sera pas pareil parce qu'on fait ça par Skype, un peu à l'arrache.
C'est l'émission à la maison. L'émission à la cool. T'es en pantoufles chez toi, peinard.
Voilà. D'ailleurs, tu ne portes que tes pantoufles actuellement.
Mathieu, tu veux nous parler de tes pantoufles peut-être?
Bah, je suis en tong en fait, écoute.
Ouais. Quelle couleur les tongs? Ok.
Donc, ça va changer la face du truc.
Ça va changer la face du podcast. Mais ça nous permet aussi de faire ça via Skype, d'accueillir Merton qui est avec nous. Donc vous aurez reconnu les voix de Thio et Tizak qui nous parlent de leur tong. Et puis à qui on dit bonjour, bonjour hein, les gens. Et on dit aussi bonjour à Merton. Bonjour Merton.
Bonjour, moi je suis toujours en pantoufle quand je fais ce podcast de toute façon.
Bonjour Merton, et toi, elles sont de quelle couleur tes pantoufles?
Marron, voilà.
Okay. Allez, fais-nous dreamer.
Je crois que ça ira.
Donc, dans cette émission, programme court, Merton va nous parler un petit peu d'adaptation ciné. Je pense qu'on va beaucoup rêver. On va beaucoup rêver avec Merton.
Là, je vais vendre du rêve, ouais, là c'est sûr.
Puis Thio va nous parler d'une de ses séries fétiches. En fait, on n'aurait pas eu beaucoup d'occasion d'en parler autrement dans l'émission, etc. Donc, il va nous parler des Tuniques Bleues dont il est fan. Moi, j'ai ressorti un vieux comics qui s'appelle Le Torso et qui est un petit chef-d'œuvre dont je vais vous parler pas trop longuement. Je vais voir ce que je peux faire. Et ensuite, Tizak va nous gérer le courrier des lecteurs parce que je me suis rendu compte qu'on était un peu des merdes. Enfin, j'étais un peu une merde sur le courrier des lecteurs. Alors, je me suis dit, tiens, je vais le refiler à Tizak. Comme ça, ça me permettra de plus me sentir responsable.
C'est pas mal. Merci. Oui, ça fait très plaisir.
Ouais, je suis sûr que tu vas faire ça. Et on va trouver un nom, genre le docteur Tizak vous écoute. Enfin, je sais pas, on verra. On peut commencer de suite. Déjà par vous souhaiter une bonne année, parce qu'on l'a pas fait encore. C'est quand même le premier podcast de l'année. Bonne année, les gens.
1, 2, 3.
Bonne année à tous.
Bonne année.
Et on commence avec Merton qui nous parle donc de cinéma. Mais qu'est-ce que tu veux nous raconter en cinéma? Tu veux nous parler du nouveau Avenger, là, les nouveaux trucs qui nous prévoient chez Marvel, c'est ça?
Non. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt vous parler des films français, de notre production bien de chez nous, qui va arriver cette année, un premier podcast de l'année. Donc, j'en ai sélectionné trois adaptations de BD franco-belges qui devraient certainement marquer les esprits. Je vais commencer par Boule et Bill. Alors ça, évidemment, tout le monde en a entendu parler. Il commence à y avoir des affiches un peu partout et on en a pas mal parlé sur le net. Alors, Boule et Bill, c'est quoi? Alors si vous connaissez la BD, c'est pas la peine de vraiment la connaître, hein, parce que dans une interview, les réalisateurs eux-mêmes disaient qu'ils connaissaient pas vraiment la BD. En fait, eux, ils voulaient faire un film avec un chien. Vous savez, du type Air Bud.
Vacances, chien et voisin, ça marche aussi, quoi.
Non, mais, fait Beethoven.
C'est ça. Non, mais à mon avis, ils ont voulu commencer par Cubitus ou des trucs comme ça, mais ils n'ont pas dû comprendre tout le scénario. Alors, globalement, bon, ils se sont rabattus sur un truc familial. Mais c'est ça. Ils se sont rabattus sur un truc un peu familial. Ils ont écrit le scénario certainement sur un post-it. Hein. L'autre moitié du post-it étant utilisé pour faire Air Bud 4 ou 5 ou 6, chien qui fait du baseball. Ça sort le 27 février 2013. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce parce que vraiment, ça a l'air d'être extrêmement fidèle à la bande dessinée qu'il n'avait pas vue.
J'avoue graphiquement, je trouve qu'au niveau des touches des personnages, ils sont très fidèles. Ça fait très kitsch pour le coup, hein, c'est sûr.
Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais bon, c'est-à-dire que quand même Franck Dubosc avoue qu'il n'avait pas vraiment lu Boule et Bill, qu'il est allé dans une librairie pour demander Boule et Bill, et qu'on lui a dit que ça se vendait bien, il était content parce que ça se vendait bien.
Voilà. Bon, ben, c'est un bon choix pour sa carrière.
En même c'est temps, ça. Quand il y a un film avec Franck Dubosc, a priori, on ne va pas forcément le diffuser sur Arte après, quoi.
Ben, c'est certain, mais bon, enfin voilà. Là, à mon avis, c'est le méga blockbuster à ne pas rater.
Ça sort je pense que sur NT1, dimanche après-midi, sans problème, quoi.
Exact. Ouais, c'est ça. Sur TF1 pour Noël. Enfin voilà, à mon avis, ça va cartonner. Le deuxième film qui va sortir, alors ça, c'est en avril 2013. Hein, c'est Les Profs. Oui, Les Profs en donc, la BD, hein, qui sont des gags d'une page, va sortir en film. Le pitch, c'est quoi? Eh bien, c'est un lycée où il y a 12% de réussite au bac. C'est dramatique. Quelle est la réaction? C'est on envoie du coup les pires profs aller avec les pires élèves pour rétablir les situations. Quelle bonne idée. C'est avec Pierre-François Martin Laval, hein, qui jouait Pef le cascadeur dans Les Robins des Bois.
Que j'aime beaucoup.
Et c'est lui qui réalise. Alors du coup, comme c'est lui qui réalise, peut-être que les gags et tout ça vont être bons. En tout cas, la bande-annonce, on en discutait avec Pierre, il y a des moments qui font sourire. Bon, après, mais c'est à voir.
Est-ce que ça ne fait pas un peu remake de Prof, le vieux film qui a marqué déjà une longue génération
J'ai pas l'impression, parce que non. Là, c'est avec Kev Adams quand même. Hein. Donc, c'est pas vraiment le même style. On est dans... voilà. Enfin, c'est... Moi, je pense, voilà, beaucoup plus potage. Je veux dire, à un moment, il y a quand même une prof qui utilise une tronçonneuse pour couper une table en deux dans la bande-annonce. Donc, on est dans un truc beaucoup plus barré.
En même temps, dans Le Prof, qui date de début des années 80, un truc comme ça, hein, de mémoire, il y avait quand même pas mal de gags potaches aussi, hein, avec des cuvettes, des chiottes et compagnie.
C'est sûr, mais à mon avis, là, on va aller... de ce que j'ai vu de la bande-annonce, moi, c'est vrai que Les Profs, dans les années 80, je l'avais vu, j'avais trouvé ça plutôt marrant. Mais en plus, ça peut être un bon film. Hein. Là, vraiment, j'attends de voir. Autant Boulet Bill, moi, j'ai plus aucun espoir après avoir vu la bande-annonce. Autant celui-là, je me dis, voilà, pourquoi pas, même s'il y a Kev Adams, parce que vraiment, j'ai du mal avec lui dans Soda. Ça reste à voir.
Il y a quelques gars qui m'ont fait sourire quand même. Hein.
Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des trucs qui peuvent être marrants. Après, il faut voir, est-ce qu'ils n'ont pas encore mis tous les gags super marrants dans la bande-annonce et puis il n'y a plus rien derrière, quoi. Ça arrive quand même assez régulièrement. La question étant, pourquoi est-ce qu'on continue quand même d'adapter des BD qui sont une page, un gag en film, quoi. Enfin, vraiment, il y a des moments où il faut se poser des questions.
C'est pas vraiment le type de narration. Enfin, au niveau adaptation, c'est vraiment très casse-gueule dans le principe, quoi.
C'est ça, c'est que de base, il y a quand même une difficulté qui est énorme, parce que...
Oh, putain.
Bref, c'est à voir. On verra ce que François-Marcel Laval en fait. Mais...
Donc, on a les commentaires. Attends, juste pour expliquer les hauts putains que vous appelez dans le fond. C'est Thio, quand on regardait un match de football américain, il est très concentré ce soir, et qui est vraiment... Waouh.
Écoutez, voilà, je vous finis juste. Seattle avait repassé un point d'avance, il restait 17 secondes et Atlanta vient de mettre un field goal. Ça finit à 30-28, il reste 8 secondes. Un match de fou, je crois que c'est quasiment le match de la décennie, quoi.
D'accord.
Ouais, je suis désolé.
Comme Martin. Le film.
Non, écoute, il n'y a pas de souci. Hein,
t'inquiète pas, mais tout à l'heure, quand tu feras la présentation des tuniques bleues, il ira se faire une choucroute, Merton. Hein, c'est pas un souci.
C'est ça, exactement. Et puis je vais finir quand même par un film qui peut peut-être être bon. C'est Quai d'Orsay qui va être adapté normalement dans l'année. On sait que c'est Thierry Lhermitte qui jouera le rôle donc d'Alexandre Taillard de Worms, qui était le rôle de Dominique de Villepin dans la BD. Et la BD étant vraiment chouette, si le réalisateur, qui est quand même Bertrand Tavernier, se casse pas la gueule, là on devrait avoir un film, une vraie bonne adaptation de BD. Je vous ai pas fait que des trucs un peu mauvais. Je pense que ça, c'est vraiment à surveiller. Il n'y a pas encore beaucoup d'infos, mais ça, c'est à suivre. Voilà, pour finir la chronique sur une note un peu plus positive quand même, hein, parce que je suis comme ça.
Non, c'est vrai qu'Orsay, en plus, c'était sympa. C'est un bon petit un humour un peu noir, c'était assez sympathique.
Non, mais et puis enfin, quand tu te dis que c'est des histoires quand même qui sont plutôt vécues, hein, vu que le comment il s'appelle Christophe Blain qui scénarise, c'est Abel Lanzac. Christophe Blain fait les dessins. Abel Lanzac qui scénarise était vraiment le mec, enfin a bossé avec Dominique de Villepin, quoi. Et Dominique de Villepin lui-même a dit que c'était même souvent pire que ça dans son cabinet. Donc tu te dis, c'est quand même voilà quoi. J'aimerais pas faire ça comme travail dans ma vie.
Oui, ça doit pas être le boulot très rigolo, mais enfin, en tout cas, la BD était intéressante et puis changée du côté gag en une planche et se porte prête mieux, je pense, à l'adaptation à la base, quoi.
Ouais, et puis là, enfin, moi, avec Bertrand Tavernier aux commandes et tout, enfin, je me dis que ça peut faire une bonne adaptation de BD, quoi. Enfin, on n'en a pas souvent, donc on croise les doigts.
On verra ça au cinéma. Ça sort quand?
Exactement. On n'a pas encore la date. Normalement, c'est courant d'année. Ils ont commencé en fait, la prod a commencé l'année dernière. Ils ont casté Thierry Lhermitte fin d'année 2012 là. Donc, bon, ça se met doucement en place.
Ok.
Ok, bah merci Merton. On va passer maintenant à Thio, qui va donc nous parler d'une série qui a bercé son enfance et qui continue à le bercer. Si tu vas nous parler des Tuniques bleues. Mais qu'est-ce que c'est les Tuniques bleues pour quelqu'un qui ne lit pas de BD?
Alors, donc Les Tuniques bleues, une série qui date donc de 1968. Je n'étais pas né, mais Les
Personne
Tuniques
n'était né.
bleues. Ah, si, il y a des gens quand même qui étaient nés, parce qu'il y avait eu des lecteurs de Spirou en 68.
C'est vrai.
Donc, créé en 68, donc dans Spirou, pour compenser au départ justement le départ de Lucky Luke chez Dupuis, il me semble, si je ne me trompe pas. Et donc, qui était avec Lou Salvarius au dessin et scénarisé par Raoul Covin. Donc, ça, c'était pour les 4 premières années. À la mort donc, de Salvarius en 72, c'est Willy Lambille qui a repris Les Tuniques Bleues. Alors, Les Tuniques Bleues, qu'est-ce que ça nous raconte? C'est l'histoire donc de personnages Chesterfield, le sergent, et le caporal Blutch. Alors, Chesterfield est le personnage qui veut. Enfin, ce sont deux militaires, bien sûr, hein, je ne l'ai peut-être pas dit, mais lui, c'est le personnage qui veut être décoré, être couvert de cicatrices et être un héros de guerre. Et le caporal Blutch, bah, lui, c'est un antimilitariste convaincu qui n'a qu'une envie, c'est de fuir l'armée. Mais malheureusement, Chesterfield l'empêche à chaque fois. Donc, les aventures au départ commencent avec Salvarius dans les réserves indiennes. Et ensuite, avec l'arrivée de Willy Lambille, on va surtout se resituer pendant la guerre de Sécession, avec différents événements où on va retrouver des passages historiques et d'autres qui sont totalement inventés. Mais il y a toujours un souci d'être dans un certain réalisme au niveau du dessin. Je fais juste une petite coupe, vous m'entendez toujours?
Oui.
Oui. On t'écoute avec attention.
Parce que j'avais un doute, parce que j'ai eu un affichage de Skype, c'est pour ça. Excuse-moi, Pipier, tu seras encore obligé de faire du montage.
Il est en train de mourir sur place.
Attends, ça va, tu préfères quand même peut-être que je m'arrête maintenant plutôt que de te dire, attends,
Non, c'est bien, vas-y,
j'ai des
continue.
soucis.
Très bien. Bon réflexe.
Donc, on était sur au niveau du dessin, donc c'est un certain réalisme au niveau de celui-ci, surtout sur tous les personnages, les décors. Mais par contre, les deux personnages principaux, donc Chesterfield et Blutch, sont beaucoup plus caricaturaux, avec un gros nez, avec un peu plus comique, on va dire, par rapport au reste des personnages. Ce
C'est pas un
qui
peu l'héritage de Salvarius, parce qu'il me semble qu'au
c'était, alors,
départ.
c'était, voilà, en fait, c'est vraiment l'héritage de Salvarius pour les deux personnages principaux. Mais quand tu lis les premières bandes dessinées, tu as vraiment le dessin entier est comme ça. Et au fur et à mesure, on va dire, voilà, quand Lambille est arrivé, ben, il a laissé que les deux personnages principaux qui ont on va dire, ce gros nez, quoi. Et les autres sont devenus beaucoup plus réalistes, en fait.
Ok. J'ai entendu dire qu'il y avait pas mal de recherches sur les costumes aussi, et qui se met à jour parce qu'il s'était rendu compte au bout de plusieurs albums qu'il avait fait des erreurs et qu'il avait changé les uniformes parce qu'il s'était rendu compte qu'il s'était planté pendant des années.
Ouais. Mais en fait, ils utilisent beaucoup de ressources de l'époque, parce que du coup, tu as les photos, c'était quand même l'une des premières guerres qui a été, on va dire, prise en photo de manière assez importante, parce que ça faisait aussi partie de la propagande pour essayer de recruter à l'époque. Et donc, tu as quand même pas mal de sources, on va dire, pour retrouver différentes infos. Voilà.
Okay. C'est une série qui dure depuis longtemps. Combien il y a d'albums actuellement?
On est sorti. Arrivé au 56e qui s'appelle Dent pour Dent. Et quand est-ce qu'il est sorti? Je vais pas te dire, mais il est sorti, je crois, en 2012, octobre ou novembre, fin d'année en fait, 2012.
D'accord. C'est une série qui a réussi à maintenir sa qualité. Est-ce que sur 56 albums, sur un sujet qui est la guerre de sécession, c'est pas évident quoi.
Alors, c'est clair que ça devient un peu plus difficile. Tu as quand même maintenant beaucoup d'épisodes qui sont un peu en... qui ont plus grand lien, on va dire, avec, avec la guerre de sécession. Il y a toujours... Tu as certains épisodes qui sont vraiment en lien avec des faits historiques. Mais ça ne pose aucun souci, des fois, à Covin de revenir sur des faits qui se sont déjà... qui auraient déjà dû se dérouler, on va dire. T'as aucune chronologie, on va dire, dans les faits. Par exemple, tu as Duel dans la Manche, où Chesterfield et Blutch vont justement embarquer dans la marine américaine. Ça se déroule normalement dans les années 1864. Et quand tu reviens ensuite, presque 10 albums plus tard, sur Emmett à New York, c'est les émeutes justement lors des recrutements forcés qui, elles, se déroulent en juillet 63.
D'accord. De toute façon, comme ils retrouvent le statu quo à chaque fin de l'épisode...
Oui, il se permet de revenir et de recommencer sans aucun souci. Mais c'est vrai que tu as des épisodes voilà, qui sont quand même plus intéressants. Le seul truc, ouais, c'est vrai que moi, sur les derniers, j'avoue que je commence à avoir un petit peu du mal, même si j'étais un fan acharné, à trouver beaucoup d'intérêt. Là, sur les quatre derniers, ça ne m'a pas beaucoup, beaucoup emballé, on va dire.
Tes tomes préférés, tes moments préférés
Mes tomes préférés, ça reste quand même Les Bleus dans la Gadoue, parce que c'était avec La prison de Robert Sandville, les deux premiers tomes que j'ai lus.
Ouais, raconte quoi, celui-là ?
La prison de Robert Sandville, comme son nom l'indique, c'est une prison qu'avaient donc les sudistes. Et c'est un des épisodes intéressants, parce que c'est là où il rencontre Cancrela, en fait, qui est un lieutenant sudiste, qui est un être abject, quoi, qui a qu'une envie, c'est un sadique, il aime faire souffrir tout le monde. Et en fait, c'est un personnage que tu vas retrouver dans plusieurs tomes après. À chaque fois, en fait, qu'il y a des prisonniers, ils se retrouvent toujours là, et à chaque fois, il lui arrive des trucs atroces.
D'accord.
Et Les Bleus dans la Gadoue, c'était assez sympa, parce que du coup, tu te retrouves avec un épisode qui montre bien l'absurdité de la guerre, quoi. Ce qui est aussi comme un des buts principaux, ce serait quand même plus juste, des Tuniques Bleues, qui est quand même une bande dessinée qui, même si elle traite de la guerre, essaie vraiment surtout de montrer son absurdité et essayer quelque part quand même de te faire réfléchir. C'est pas juste une série de gros nez qui est là juste pour te faire rire.
Moi, je sais que j'avais beaucoup aimé, je sais plus comment s'appelait le tome, un tome flashback où il raconte les recrutements des personnages.
C'est Vertes Années.
Vertes
non,
Années,
pas
qui
Vertes
était
années.
Un très très bon tome. Enfin, j'avais pris beaucoup de plaisir à le lire. Ok, les autres, vous avez déjà lu les Tuniques Bleues? Il y a des tomes qui vous ont plu, des trucs qui vous bottent dans les Tuniques Bleues? Merton?
Moi, je suis fan du Capitaine Stark. Le mec, il charge tout le temps. Et je trouve ça formidable. Et parce que comme tu disais, c'est aussi tout le côté complètement débile de la guerre. Moi, je trouve qu'il le montre bien à multiplier. Enfin, en gros, c'est toujours des charges complètement suicidaires, etc. Et je sais pas, j'adore ce personnage. C'est peut-être très con, mais ça me... Voilà.
Ok, Thierry qui veut parler, mais que je lis pas ses messages.
Bah, tu lis pas mes messages et tu me coupes trois fois la parole. Attention, je vais faire mon Mathieu. Non, moi, je voulais simplement justement poser à Mathieu la question de la raison initiale du choix des Tuniques Bleues en tant que récit. Donc, tu disais qu'il y avait une partie de propagande entre guillemets anti-guerre, on va dire, de manière générale. Mais il y avait une raison plus profonde, plus personnelle pour le choix de Salverius et de Covin ou pas? Ou c'était simplement parce qu'ils étaient plutôt antimilitaristes et qu'ils avaient envie de prendre ce sujet-là?
Alors là, je vais pas non plus essayer de peut-être de trop... trop je vais pas essayer d'inventer.
Non,
je sais juste que en fait, Covin, en fait, au départ, a proposé à Salverius cette série-là, pour que ce soit justement entre guillemets une série western qui devait remplacer Lucky Luke. Il a eu l'idée de ça. Après, le ton qu'ils ont voulu donner, ça, j'ai pas de plus d'infos.
D'accord.
Tu disais que c'était beaucoup dans les réserves indiennes. Le côté guerre de sécession était pas présent ou c'est...
Bah, en fait, t'as les premiers tomes en fait avec Salverius qui se déroulent donc à Fort Beau, qui est à côté d'une réserve indienne. Les guerres indiennes sont finies. Et tu vas avoir en fait, ouais, quasiment dès le second album, on parle de la guerre de sécession, mais c'est vrai que c'était plus avec Salverius que tu es dans Fort Beau. Avec Lambille, on y retourne de temps en temps, Mais ça reste quand même beaucoup moins fréquent. Bah, tu vas y retourner en fait pour un des tomes qui a été là un peu engagé pour le coup, c'était Captain Nepel. À relire dans l'autre sens pour le nom du personnage, où justement tu as des petites piques justement sur les Indiens, les Chinois qui sont venus travailler aux États-Unis. Et un des personnages qui est un peu un raciste convaincu. Mais après, c'est vrai que l'essentiel de l'histoire se déroule pendant la guerre de Sécession, avec après tout ce qu'il y a eu pendant celle-ci, c'est-à-dire les guerres de marine, les guerres. On va dire en Europe, tous les hauts faits, on va dire, ont été un petit peu retracés petit à petit par les différents tomes de l'histoire.
Ouais, voilà, c'était sur l'ensemble des 56 tomes, ça reste. C'était l'autre question, c'est est-ce que ça reste concentré sur la guerre de Sécession ou est-ce que ça s'élargit à d'autres thèmes? Est-ce que les personnages, on les voit avant la guerre, après la guerre, dans d'autres situations finalement?
Alors en fait, on les voit jamais après. On a des petites réponses, par exemple quand tu regardes. Vertes années qui raconte toute l'enfance de Blotch, qui est peut-être un des tomes je trouve les plus intéressants parce que ça te permet d'avoir de mieux comprendre le personnage quoi. Mais sinon tous les autres tomes restent essentiellement sur la guerre de Sécession. T'as peu de tu fais des flashbacks on va dire ce qui a pu se dérouler avant, oui. Mais à aucun moment on nous a montré ce qui pouvait se passer après.
D'accord. On sent un côté historique quand même dans la BD ou
Alors il y a des épisodes qui sont vraiment basés sur des faits historiques, sur des batailles ou sur des affaires d'espionnage qui ont eu lieu à l'époque ou des liens qui ont voulu être faits avec la France ou avec l'Angleterre pendant la guerre de Sécession. Mais ensuite il n'y a pas de pas tout le temps non plus quoi.
D'accord.
Ok, eh ben merci beaucoup Thio. Je vous encourage tous à vous replonger dans les tuniques bleues. Et donc, comme tu disais, les bleus dans la gadoue apparemment est un. Allez, un titre pour commencer. Tu penses que ce serait lequel?
Le premier.
Ben oui et non, parce qu'en fait les quatre premiers c'est Louis Salvérius et du coup c'est un dessin qui est très différent de celui qu'on connaît actuellement. Donc du coup, c'est peut-être pas sûr que ce soit les plus faciles, les plus agréables à lire, quoi. Peut-être vraiment pour les convaincus. Moi, je dirais la prison de Robertsonville est un bon départ, peut-être.
D'accord.
Bah... Par contre, juste une petite info quand même, c'est que depuis octobre 2012, sur une plateforme bien connue des propriétaires de trucs avec une petite pomme dessus.
Ouais, sur iTunes, quoi.
Ils ont sorti une application en jeu sur l'Apple Store qui s'appelle Nord et Sud. Pour ceux qui se rappellent, ce petit jeu qui était assez sympathique, qui sortait. Voilà, qui est sorti en 89. Je sais plus, je crois que c'était Activision qui l'avait fait. Donc ils ont fait une nouvelle version qui est donc sur disponible sur iPod, iPhone.
Très bon petit jeu de stratégie.
Bon, a priori, voilà, les gens qui l'ont acheté disent certains super, d'autres disent ouais c'est super nul parce que c'est pas aussi bien qu'avant. Bon, ben voilà. En tout cas, les graphismes ont été revus, mais là, juste en regardant les images, je me dis, tiens, c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup au jeu auquel on a joué sur Atari 720 STE.
Ouais, même STF, ça marchait aussi. Trop bien. Merci, Matt.
Voilà.
Merci beaucoup.
Ah, si, juste une chose, pour ceux qui seront donc au Festival d'Angoulême, il y a un calot bleu, des tuniques bleues qui sera disponible pour donc à plier, à coller, et ça vous fera la casquette de Chesterfield ou de Blotch.
D'accord. Et ben,
vas-y, coupe-le encore une fois, venge-toi.
T'auras un très bon déguisement pour les gens qui y vont.
Ouais, mais bon, j'irai pas.
Non plus. Pour me venger, je vais vous parler de Torso. Alors Torso, c'est une bande dessinée scénarisée par Marc Andreïko, quelqu'un que vous connaissez pas forcément bien, co-scénarisée par un certain Brian Michael Bendis, dont on a déjà parlé, un scénariste américain qui a beaucoup fait de grandes choses chez Marvel, et dessinée par Brian Michael Bendis. Parce qu'au début, ce scénariste, hein, qui maintenant est connu vraiment pour son côté scénariste, était aussi dessinateur. Et il avait sorti chez Image un truc un peu underground qui s'appelle Torso. Brian Michael Bendis, en fait, avait été journaliste dans un... Comment ? A été journaliste à Cleveland et avait eu accès aux archives du journal de Cleveland qui avait traité une affaire de l'époque, qui date de 1935, qui parlait d'un tueur en série. Alors, une des particularités, c'est qu'en gros, au niveau du scénario, c'est quand même vachement intéressant parce que dans le truc, on a premier tueur en série américain et Elliot Ness. Voilà, il nous cale Elliot Ness au milieu et franchement, en gros, ce qui se passe, c'est qu'Elliot Ness, après n'avoir pas arrêté Al Capone et s'être démerdé avec des comptables pour le faire, a quitté la ville. Et à Cleveland, c'était un petit peu la merde, parce qu'on sortait de la crise de 29. Cleveland était une ville qui marchait assez bien, qui ressortait bien de la crise, même ce qui fait d'ailleurs qu'il y avait des bidonvilles aux alentours. Sauf que la ville, la police n'était pas super en bonne forme, elle était réputée corrompue, il y avait encore la prohibition et compagnie. Et donc le maire de Cleveland fait appel à Elliot Ness pour gérer la sécurité, pour revoir la sécurité et en fait virer tous les flics corrompus. En parallèle de ça, il y a deux agents de police qui découvrent un corps sans pieds, ni mains, ni tête, et qui essayent de savoir qui c'est. Sauf que vous imaginez les moyens techniques à l'époque. Alors il y avait déjà les fichiers dentaires et les fichiers d'empreintes digitales qui devaient pas être très 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 rapides à exploiter, je pense.
Si, avec de la farine et un peu d'eau pour les empreintes digitales.
Mais donc, ils se retrouvent très emmerdés pour essayer de trouver qui sont ces gens-là. Et au fur et à mesure de l'enquête, ils se rendent compte que ce sont tous des gens qui, en plus, viennent des taudis, donc le genre de personnes...
tout le monde se fout, en fait.
Qui manque à personne, quoi, et dont personne ne s'inquiète globalement. Elliot Ness, lui, c'est pas son affaire, c'est pas son problème, il est là pour gérer la sécurité de la ville et remettre en place la police, sauf que les médias prennent l'affaire en main et commencent, quand Elliot Ness veut dire « Hey, je vais faire des trucs bien dans la ville », on lui dit « Hey, et le tueur ?» Non, mais le tueur, il a tué que 4 personnes pour le moment, moi je compte mettre des feux rouges parce qu'on n'en a pas encore, il y a eu 400 morts à cause de l'absence de feux rouges. Bon, on lui fait bien comprendre que ces feux rouges, ils n'en ont rien à faire, et que c'est quand même le tueur aux torses, comme il est surnommé, est vachement plus intéressant. Mmh. Et on suit cette histoire, qui est une histoire vraie, qui a aussi une particularité, c'est que c'est une histoire, c'est un crime qui officiellement n'a pas été résolu. Alors, Bendis et Andreïko donnent leur hypothèse en se basant sur les recherches qu'ils ont eues sur qui est le coupable. Ça permet aussi de voir Elliot Ness dans une situation un peu différente, c'est-à-dire de le voir vraiment avec un côté un peu plus politicien, ce qui est loin de l'image qu'on a de lui dans Les Incorruptibles. Et puis de voir aussi que quand Elliot Ness arrive dans une ville, les flics ils sont pas contents parce qu'ils se disent « Putain, ils vont virer tous nos potes qui, même s'ils sont pas forcément très nets, ils font leur boulot, quoi. » Alors, voilà pour le scénario qui est très prenant, très bien écrit. On reconnaît la patte de Bendis, qui est vraiment très très fort pour le côté des dialogues, en fait. C'est très dialogué, c'est très très fort. Niveau dessin, on est dans du noir et blanc, qui utilise beaucoup de photos d'époque. Et c'est un noir et blanc très très tranché, c'est-à-dire pas de zone, très peu de gris, en fait. Très très noir. Bendis n'est pas un génie du dessin. Il dessine bien, mais on voit qu'il est un peu flemmard en tant que dessinateur. Il utilise beaucoup le procédé du copier-coller sur certaines cases. Certains de ses procédés de mettre des sortes de trames de gris, je pense qu'il aurait pu trouver plus intelligent comme technique, mais le fait d'utiliser des décors réels, de photos d'époque pour certaines scènes passe vraiment bien, et globalement on se retrouve bien dans les dialogues. On retrouve les scènes qui ont fait sa marque, pour ceux qui ont lu Powers, toutes ces scènes d'interrogatoire où on a des tonnes de visages de personnes qui disent oui, non, pas vu, mais de quoi vous me parlez, etc. On retrouve ce procédé qu'il a réutilisé après dans Powers. Ça reste une très très bonne série. Moi, je passais un très très bon moment à le lire. Ça fait un peu froid dans le dos, et puis l'époque est vraiment très intéressante. C'était paru chez Semic, dans la collection Semic Noir. Je ne sais pas si c'est encore trouvable facilement. Serait bien qu'un éditeur le réédite. Je ne sais pas si ça a été le cas. Parce que franchement, en tant que bon polar noir, une bonne enquête policière, en fait, et puis une enquête vraie, quoi, ça reste vraiment très intéressant. Surtout qu'à la fin, ils ont mis quelques annexes pour retracer un peu le contexte de l'époque, montrer des dessins d'époque, montrer un peu les techniques de la police qui de l'époque, qui était vraiment rien à voir avec ce qu'on peut voir maintenant. Enfin, super intéressant. Si vous avez des questions.
Pour l'avoir lu en fait à l'époque, excuse-moi, Thi, du coup tu peux faire.
Vas-y, Matt.
Non, mais voilà, je veux pas te couper la parole sans m'excuser, tu vois, parce que certains le font et ne disent rien. Pour l'avoir lu à l'époque, je crois que c'était un des premiers comics en vrai que tu m'as passé pied.
Ouais, c'est possible.
Et du coup, c'est vrai que ça m'avait quand même pas mal emballé, parce que du coup, tu avais dû te dire, ouais, je vais pas lui repasser de suite, ce truc de super-héros, je vais lui montrer qu'il y a autre chose que ça. Et c'est vrai que c'était un titre très sympa, avec une ambiance bien noire et vraiment intéressant. Voilà, c'est un très bon truc. C'est vrai que maintenant, je sais pas si, comme tu dis, si c'est encore disponible et surtout réédité, parce que ça date un peu. Et...
Ouais, bah moi, là, je l'ai relu hein, pour aujourd'hui, et j'ai pris un vrai plaisir à le relire. Quoi. Je l'ai dévoré, je me suis pas arrêté jusqu'à l'avoir fini. Ti, donc
bah, Moi, je tiens à souligner le fait que bah, moi, tu ne l'as pas passé, hein, voilà, donc je n'ai pas pu le lire, merci.
Je te le passerai, il n'y a pas de souci.
Oui, voilà, je veux pas. Et puis bon, je dirais finalement, tu t'es pas trop foulé, tu es allé chercher un mec qui a quand même gagné un Eisner Award pour ce bouquin-là. Franchement, je pensais que tu avais un truc vachement plus underground à nous proposer, quoi.
Je suis désolé, à l'époque, c'était super underground.
De super grande qualité comme ça, là, comme ça. Putain, Pierre.
Merton?
Moi, ça me donne envie de le lire. Enfin, non, c'est pas grand chose à rajouter. J'ai juste pensé à l'épisode de Columbo que j'ai vu hier quand t'as parlé des méthodes d'investigation.
Non, mais là, c'était 35, hein.
Ouais, c'était même encore avant, ouais. Mais il était même pas capable de voir que le monsieur, il avait été électrocuté, tu vois, il fallait une autopsie, tout ça.
Savoir les trucs aussi super rigolos, il faut savoir que l'affaire du tueur au torse a passé au-delà des États-Unis et qu'un certain Adolf H., qui sévissait en Allemagne à l'époque, a utilisé cette affaire-là pour dire que les États-Unis étaient vraiment un pays horrible, qu'il n'y avait que ce genre d'endroit où c'était pas bien contrôlé, que ce genre d'être abject pouvait exister. Tu sais, un pays qui est dirigé par les lobbies juifs.
Fais attention parce que Adolf H. a déjà été cité aujourd'hui. Je te rappelle que, pour ceux qui voient l'enregistrement, on a enregistré le 13 janvier. Oui. Et que Adolf H. a déjà été cité aujourd'hui et que ça n'a pas été très bien pris.
Non, c'est clair. Après, ceux qui suivent l'actualité sauront de quoi on parle. Sinon, voilà, ça n'a rien à faire dans ce podcast.
Pour compléter ce que tu disais, du coup, j'ai farfouillé un peu pendant que tu parlais, et il y a un film qui est sorti en Blu-ray qui s'inspire de tout ça.
Ah, parce que j'ai cherché un peu, parce qu'il parlait d'une adaptation film, j'ai cherché un peu et j'ai rien trouvé, tu vois.
Ben si, c'est un film de Sergio Martino avec Suzy Kendall et Tina Aumont. Enter if you dare the bizarre world of the psychosexual mind.
Ils ont bien dû changer les trucs parce que les personnages féminins dans la police en 1935, autant te dire que tu pouvais chercher.
Voilà, je pense qu'Eliott Ness.
Il va y avoir des tonnes.
Ah, pour le coup, ça ressemble bien à du bon film d'horreur façon Massacre à la tronçonneuse avec. Peu d'intrigue et beaucoup de sang.
D'accord. Genre, quelqu'un reprend la façon de faire les crimes du tueur au torse.
C'est ça.
Voilà.
Donc, voilà. Bref, à lire et peut-être à voir, mais pas sûr.
Pas sûr. Non, en général, dans ce genre de film, les actrices sont bien foutues.
Oui, je confirme.
Eh bien, Tizak, c'est à toi. Tu vas entamer cette prise de rubrique du courrier des lecteurs. Alors là, on est dans la totale surprise, on ne sait pas ce que tu as préparé, on ne sait pas comment tu vas nous organiser ça. Nous sommes prêts à répondre à toutes les questions des lecteurs. Nous t'écoutons.
Alors, donc on va dire que Dr. Tizak fait sa première apparition dans l'émission ce soir, de façon un petit peu impromptue. Donc, je vais m'occuper du courrier des lecteurs, chose que Pierrick n'a malheureusement pas eu le temps de faire, donc c'est moi qui m'y colle. Donc je vais commencer.
Bienvenue au fait, parce que du coup, comme tu arrives, Tizak, ouais. Bienvenue à toi.
Bienvenue, docteur.
Merci.
Tu salueras ton cousin, le DJ.
Ouais.
Le barman est occupé, là, il me fait un Coca Zéro. Donc, épisode 69, qui, je le rappelle, était une émission spéciale en live pour fêter les 3 ans du podcast. On avait eu pas mal de personnes qui discutaient sur le chat, notamment Lunch, qui a également mis son petit, voire son gros commentaire sur le site. Donc Lunch qui a tenu à rendre hommage à Matt Manga,
D'une part, en saluant sa performance vocale, malgré la douleur qui en ressortait, mais également en montrant qu'il comprend ce que Matt a raconté. Oui, oui, il y a des gens qui arrivent à comprendre malgré tous les mots asiatiques qui traînent au milieu. Il arrive même à avoir une opinion personnelle sur le sujet, notamment en ce qui concerne Matsu Katsura et l'aspect finalement très peu érotique de ses mangas. Bref, comprenne qui peut, qui a revu ou revu DNA 2 ou Biopérale. En bref, bravo Mathieu, tu vois que ta voix n'a pas nuit à la voix que tu t'es tracée au sein du podcast. Voilà, voilà.
Lunch, je salue Lunch qui est un grand commentateur et ça fait toujours très plaisir.
Exactement. Donc on en revient encore une fois à Lunch, qui participe encore une fois, comme sur le chat, hein, très actif dans ses commentaires. Petite incitation à l'égard de l'ensemble de nos auditeurs, hein, n'hésitez pas à faire comme nous. Donc il nous propose cette fois-ci une excellente idée à soumettre à notre ministre de la Culture, Aurélie Fabetti. Non, rien à voir avec le cannabis, hein. Mais plus sérieusement, plus prosaïquement, de permettre à nous, à vous, chers auditeurs, de payer nos chers, très chers BD avec des tickets resto. En tout cas pour ceux qui en ont. Donc messieurs, dames, les auditeurs, n'hésitez pas, vous aussi, réagissez face à cette proposition. Lancer une pétition nationale, pourquoi pas. Allez-y de votre propre idée débrouille en cette période de crise. Bref, à vos commentaires, on vous attend.
Pour les pétitions, ça marche même pas très bien aux États-Unis parce que la Maison Blanche a dit qu'ils ne construiraient pas une étoile noire.
Oui, donc, ils avaient très bons arguments.
Oui, mais c'était des excellents arguments, je suis d'accord. Mais en même temps, voilà, donc les pétitions, même si on demande à payer les BD en ticket resto, je pense que ça ne marchera pas non plus.
Et qui trouve des arguments aussi bons que la Maison Blanche.
C'est quand même bien.
Moi, je dis qu'il faut faire entendre sa voix.
Oui, c'est sûr, mais la Maison Blanche a répondu. Ils ont dit qu'a priori, l'annihilation d'une planète n'était pas dans les prérogatives tout pour tout de suite de M. Obama. Donc.
Ça, et puis ils ont surtout dit à quoi ça sert de payer 850 millions de milliards de dollars pour un outil qui peut être défoncé par un seul mec tout seul dans son vaisseau. Et c'est là, ils ont fait pas
tort, quoi. Là, ils ont touché du doigt vraiment le souci, je suis d'accord.
Alors, le ticket resto, c'est vachement plus résistant.
Bon. Excuse-nous pour cette digression, vas-y.
Autre commentaire, cette fois-ci d'un certain Randall Flagg, qui regrette, et nous aussi pour le coup, de n'avoir pas pu se libérer pour nous écouter lors de l'émission.
Surtout qu'il fait des dessins à chaque fois qu'il vient participer à un live.
C'est ça, faire comme lors du précédent live, mais pour reprendre son expression, des illustrations, et donc pour fêter l'événement. Toutefois, je remarque que Monsieur Randall Flagg a honte de nous écouter, car il veut faire ça, je cite, discrètement, dans la rue ou en voiture. Je n'ai qu'une chose à dire, Monsieur Randall Flagg, il faut assumer ses goûts, ses lectures, ses écoutes. Le sexe, ce n'est pas sale. Ton corps change, Randall. Ce n'est pas grave. Laisse-nous tes questions, et avec Képié Difoul et Matt Difoul, nous essaierons de répondre à tes questions.
Merci. Ok, bah merci, Dr. Tizak. C'était une rubrique courrier des lecteurs bien mieux animée que ce que je peux faire d'habitude. Donc tu es embauché.
Je tiens juste quand même à signaler que Tizak a quand même oublié de signaler que Lunch était fan de sa voix.
Attends.
Non, mais Wanaïki a dit déjà que c'était fini, donc là t'as plus de temps en fait, là on s'arrête. Donc voilà, Lunch a fait une déclaration disant quelle voix magnifique il a, je suis fan.
On reviendra dessus.
Oui, mais c'est parce qu'il chante trop bien, tu vois. Donc, ouais. Mais tu pourras participer, je sais pas, quand ils feront une adaptation au cinéma d'une comédie musicale, je sais pas, s'ils veulent faire une comédie musicale Gaston Lagaffe, par exemple, tu pourras jouer dedans.
Hein ? Ouais, super. Wouh !
Ils sont quatre.
Ah ouais.
Tout est possible, c'est les 75 ans de Spirou, là, à mon avis, il y a des trucs qui peuvent se faire, quoi.
C'est le jeu de la vie.
C'est le jeu
donc,
de la vie.
Donc, docteur Isaac, on te garde.
En Fantasio, quoi.
Comment ?
Moi, je vois bien que j'amène le debout dans Fantasio, quoi. Enfin, moi, je pense que c'est possible. Il faut qu'il y pense, il y a des pognons à se faire.
Ouais, peut-être qu'on peut trouver quelqu'un d'autre aussi. Hein.
Ouais. Ouais, il faut penser comme acteur français, quoi. C'est ça.
Ouais, mais c'est sûr qu'il est plus beau qu'Ebel, mais bon. Voilà quoi.
Ouais, on en est là.
Ok, ouais, ça va pas pour plein de qualité. Enfin,
bien, merci à tous de nous avoir écoutés. Nous allons nous arrêter là, surtout que j'ai l'impression que Skype commence à nous faire un son de plus en plus mauvais. J'espère que nous aurons
été.
Hein ?
Je trouve aussi, ouais.
Ouais.
C'est pourri là.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc vous pouvez laisser des commentaires, le docteur Tizak répondra à vos questions. Il accepte les tickets restaurant, même s'il ne peut pas s'acheter de BD avec, et toutes les consultations. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook et compagnie. Et on se retrouve donc dans 15 jours. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bye bye. Bye bye.
Qu'est-ce que c'est les tuniques bleues pour quelqu'un qui ne lit pas de BD ?
Là, en fait, je peux pas. Je peux pas, c'est pas possible. Désolé, il reste 6 secondes, je crois que c'est un truc trop énorme. Enfin bon, je vais commencer donc à vous parler des tuniques bleues. Putain,
c'est si vrai, tu veux, attends 6 secondes. Hein.
En fait, je t'assure que bon, non, là il reste.
Temps de jeu au foot américain, ça peut durer 10 minutes. Hein.
Non, en fait, là il reste 2 secondes de temps effectif. Et a priori, je pense que Seattle va tenter un coup de pied de environ 50 yards pour repasser devant. Sachant que leur kicker a un record à 55, c'est un peu tendu quand même.
Ce qui est bien, c'est que le principe est que ce soit facile à monter à la base de l'émission. Et là, tu viens pas encore de me pourrir, tu vois.
Et ça va, tu sais juste qu'il y a un moment, de toute façon, où tu.
Non, mais tu peux le laisser dans l'émission, ça fait un côté, les gens viennent à la maison avec nous, tu vois.
Ouais.
C'est sympa. Ils viennent dans nos pantoufles, marron pour celle de Merton, en tombe pour
c'est fini.
En train de regarder un match de foot américain, tu vois.
C'est fini. C'est fini.
Et c'est Atlanta. La victoire 2, allez, dis-nous au moins qui a gagné.
Victoire d'Atlanta, 30-28.
Ok. Atlanta, la ville de The Walking Dead, donc voilà.
Bien. Les tuniques bleues. Deuxième.